Manitou, la nation d'Israël, chapitre 38-39, Bereshit Rabba, deuxième bande.
Ils avaient trempé dans le sang de cette... C'était un Seir Izim, un chevreau, qui nous renvoie déjà à un personnage analogue de sacrifice, c'est le chevreau de Judas et de Tamar. Okay. Mais lui qui est Gedi Izim et qui nous renvoie à Hadgadia de Pessah. C'était déjà en compétition entre Jacob et Esaü. Vous vous rappelez, la compétition des Matramim qu'Isaac avait demandé à Jacob et Esaü. C'était un chevreau. Vous vous rappelez? Okay. Et donc ça renvoie à l'identité d'Israël à la sortie d'Égypte. En préfiguration. Vaishlechu et Ketonet Apassim, ils ont envoyé cette tunique. Elle était la cause du différent. Alors, je résume très brièvement une Midrashim qui parle de cela. Il y a deux explications fondamentales. La première consiste à dire que la tunique de chacun des enfants de Jacob avait une couleur. Si vous voulez, chaque tribu a son drapeau. Mais que Ketonet Apassim, ça signifierait que la tunique de Joseph avait toutes les couleurs. Toutes les couleurs distinctes. On a traduit bigarré. Je ne sais pas si c'est le mot en français. Okay. Un cran encore, et l'unité de la lumière se fait. Mais tous les éléments de l'unité de la lumière sont là, juxtaposés, chez Joseph. Alors que dans les autres tribus, il n'y a qu'une couleur à la fois. C'est le premier thème du monde. Okay. Le deuxième thème, c'est que c'était une tunique à pans, plus longue. Et je crois que le seul terme qui peut éclairer, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui une soutane. C'est-à-dire qu'il lui avait donné la tunique de la prêtrise. C'est donc deux manières d'exprimer en quoi Jacob a privilégié le profil d'identité Joseph. Mais encore une fois, pour que ce soit bien clair, au niveau Jacob, mais dès qu'il est Israël, alors le fils d'Israël, c'est Judas. Vous voyez à quel point c'est parallèle, cette mutation d'identité Jacob-Israël et l'ordre des valeurs messianiques Joseph-Judas.
Alors c'est pour ça que c'est Judas qui arrive à arrêter, qui se révèle et qui obtient que Benjamin ne reste pas.
Je dirais provisoirement, c'est pourquoi c'est lui qui intervient.
C'est lui qui intervient.
Oui. Vous permettez d'ouvrir une petite parenthèse sur votre question, je crois que nous l'avons étudié, mais je ne sais plus dans quel texte, mais ça nous reviendra. Et que lorsque les fils de Jacob sont groupés autour de Joseph, alors c'est le temps de la diaspora, de l'exil. Lorsque les fils de Jacob sont groupés autour de Judas, c'est le temps du retour. Est-ce que nous avons étudié cela? Bon, on va lancer l'indication. Or, ce qui fait que c'est possible, ou la première combinaison, les frères autour de Joseph, alors c'est l'Égypte. Vous voyez comment Joseph réussit à grouper ses frères autour de lui. Et il réalise le rêve des gerbes, que c'est sa gerbe qui est au centre et qui est le chef d'orchestre, si j'ose dire, du fait de gerber les gerbes. Et puis, au contraire, c'est Judas qui est le centre, le thème qu'il faut étudier, c'est Judas Maccabi au moment de Hanouka. Okay. Et alors, le critère, c'est avec qui est Benjamin. Si Benjamin est avec Joseph, tous les frères sont avec Joseph. Si Benjamin est avec Judas, tous les frères sont avec Judas. Alors c'est très frappant de voir que pour l'Égypte, Benjamin est avec Joseph, et c'est ce que Joseph voulait, faire que Benjamin descende. À ce moment-là, tout le monde, y compris Jacob, est en Égypte. Et mais après le schisme du roi Salomon, où le schisme est entre la descendance par Éphraïm, c'est-à-dire Joseph, le royaume du Nord, et puis le royaume du Sud, le royaume du Nord, capitale. Vous n'êtes pas très expert en géographie biblique. Hein. C'est un peu la faute des journalistes, parce que au lieu d'appeler Shrem, on appelle Naplouse. Et c'est Shrem. Et puis. La maison d'Éphraïm, c'est le royaume du Nord. qui s'appelle Beth Yosef, la maison de Joseph. C'est clair. Mais le royaume du Sud, capitale Jérusalem, c'est Juda. Or, Benjamin est avec Juda. Alors, vous voyez, éclipse des 10 tribus du royaume du Nord, parce que Benjamin est avec Juda. Alors que, dans l'autre occurrence, lorsque Benjamin est du côté de Joseph, c'est le règne de Joseph en Égypte. Est-ce, si c'est suffisamment clair, ça suffit comme parenthèse. Okay. Vous voulez me rappeler la question pour relier à la réponse ?
Il n'y a pas de question, je vous demandais si c'était ça, si c'était pour ça que c'est clair.
Ah oui, oui. C'est-à-dire, j'ai appelé une fois, en étudiant ce thème, Benjamin, la dernière chance d'Israël. Le Ben Zekounim. C'est la dernière chance d'Israël. Et c'est pourquoi Jacob le protège tellement. Parce que si Benjamin est à la même occultation que Joseph, il n'y a plus d'avenir. Il y a risque de plus d'avenir. Et alors, lorsque Joseph met en place des stratégies pour attirer Benjamin en Égypte, Jacob refuse. Jusqu'au moment où, finalement, c'est votre question, Judas intervient pour dire, bon, ben, c'est le temps de Joseph, que Benjamin descend. C'est clair ? Encore une fois, si vous voulez, là, la question de fond n'est pas tellement qui a raison, Joseph ou Judas, mais en quel temps Joseph a raison, en quel temps Judas a raison. L'ordre des valeurs. Bon, là-dessus, c'est un problème contemporain, comme vous connaissez les positions de chacun, c'est même pas la peine de mettre les i sous les points. Alors je continue donc le verset, verset 32 du chapitre 37. Vayavihu et la Biel, il fit revenir cette. Est-ce que j'ai expliqué les deux midrashim sur Ketonel Passim, okay? La préférence de Jacob dans Joseph qui se voit dans ce privilège d'une tunique différente. Alors cette tunique, ils l'apportèrent à leur père, Vayomru, Zot Matsanu. Voici ce que nous avons trouvé. Hakerna, reconnaît donc Hakerna, Aktonet Binchahi Imlo. Est-ce que c'est la tunique de ton fils ou pas? Là aussi, un verset extrêmement dense. Hein? Ça veut dire une sorte de préfiguration de l'échec du choix de Joseph. On ramène la tunique ensanglantée, mais il faut que Jacob reconnaisse que c'est bien celle-là, donc Gamarnou avec Joseph. Ça va rentrer dans la clandestinité. Et Jacob rentre dans le deuil. Vous vous rappelez de cela? Et alors, la première explication du Midrash, c'était de dire le lien, dans la situation décrite, d'analogie, le lien, c'est la Yérida. Ça, nous avons étudié hier. Si, rappelez-moi, je n'ai plus les souvenirs très clairs. Nous avons étudié hier. Je vous ai dit l'essentiel, en tout cas. Quand Joseph et Judas se séparent, alors il y a chute. Je dirais d'une autre manière, très et de l'un et de l'autre. Joseph sans Judas, c'est pas Israël. Judas sans Joseph, c'est pas Israël. C'est une situation de chute dans la clandestinité d'identité, si j'ose dire. Est-ce que c'est suffisamment clair, hein? Donc, ça, c'est la première situation enseignée par Rabbi Yochanan. Celle qui est enseignée par Rabbi Elazar, non, c'est l'inverse. La première est enseignée par Rabbi Elazar. Celle qui est enseignée par Rabbi Yochanan va au contraire à l'autre extrémité de la péripétie. C'est le moment du dévoilement. Il y a quelque chose d'analogue dans les deux situations, c'est ce moment de dévoilement. Alors, au hakerna de la tunique de Joseph va correspondre à un hakerna dans l'histoire de Judas. Alors, prenez le verset, nous allons le lire. C'est le verset 25 du chapitre 38. Verset 25 du chapitre 38. Voilà de quoi il s'agit. Lorsque Tamar avait réclamé un gage de Judas, et le prix de ce gage, c'était un chevreau. Vous vous rappelez ?
Oui.
Bon. Et la possibilité de la Géoula. Et puis, finalement, ce gage, c'était qu'il lui a donné, c'est les attributs de la royauté messianique selon Judas. Son bâton de commandement et ses insignes de chef de tribu, les Chotemet Vaptili. Et puis, finalement, lorsque Judas a envoyé le chevreau pour retrouver son gage, alors imaginez de quoi il s'agit. Judas confie à une soi-disant prostituée, personne n'est dupe, okay, il confie quoi? Les attributs de la royauté messianique. Et puis il s'arrange pour envoyer le gage du chevreau quand il saura qu'elle n'est pas là. De telle sorte qu'elle garde ses attributs de la royauté. Alors lorsqu'il se dévoile qu'elle est enceinte, elle est convoquée au tribunal dont Judas était le dayan, et il va donner comme sentence qu'on la brûle. Nous allons voir, j'espère dans la deuxième partie du cours, que, en principe, ce n'est pas la halakha. Le fait d'être brûlé ne punit pas du tout ce qui était censé s'être passé. Okay? Mais on verra le midrash qui nous dit, de là on apprend quelle est la fille de Shem. Parce que si c'est une fille de Cohen, alors la halakha est qu'elle soit brûlée. Or, il n'y avait de Cohen en ce temps-là que Shem. C'est ce que nous avons étudié tout à l'heure, je vous dis un peu à l'avance, et qu'est-ce que ça signifie, on va voir un peu plus en détail. Alors, lisons ce verset. C'est le verset 25 du chapitre 38. Et Himoutzet, on la fit sortir pour l'envoyer au bûcher, si j'ose dire. Behi shalcha el hamia, et elle envoya à son beau-père les mots en disant Lehish asher elelo, c'est à l'homme à qui ceci appartient, cela appartient, anochi hara, que je suis enceinte. De l'autre, Vatomer, et elle dit Hakerna, reconnaît donc l'émi à Hotemet, à qui appartient cette bague, ce sceau, vers Pétidim, et les franges de la terre, vers Matéaïe, et ce bâton de commandement. On voit de nouveau, la scène est très, très importante, hein? Et c'est là, ça nous verrons un peu plus tard, c'est là, verset 26, Vayaker Yehuda Vayomer, et Judas reconnu. Il dit Tzadeka Mimeni. Alors le pshat habituel, c'est elle est plus juste que moi, mais nous verrons d'après Midrashim que ça signifie si elle est Tzadeket, c'est grâce à moi. Tzadeka Mimeni, elle est devenue Tzadeket Mimeni grâce à moi. Il y a le tzadik qui peut être enfanté grâce à moi. Et vous savez effectivement que c'est la signification du nom de Tamar. D'après le verset, Tzadik Katamar Ifra, le juste fleurira comme un palmier. Donc, si le texte nomme une identité Tamar, c'est une identité de Tzadik. Alors, vous reconnaissez avec Tzadik Amemeni, et on commence à mieux comprendre ce qui se passe là. C'est clair ? Je résume. Normalement, c'est de son fils, son premier fils, que Tamar devait enfanter. Il y a impasse. Impossibilité d'enfanter, c'est R. Deuxième fils, Onan, impossibilité d'enfanter. Il reste un troisième. Et là, le débat de Judas, c'est si je la donne au troisième et que ça échoue, il n'y a plus d'issue. La souche des engendrements est arrêtée. Et alors, il prend l'initiative de le faire lui-même. Ce que nous voyons dans le verset. Tzadeka Mimeni. Est-ce que c'est clair? Donc. Alors, nous verrons donc à ce moment-là.
Non,
vous avez raison de préciser. C'est-à-dire, il y a la péripétie et l'événement. Hein. L'initiative de la péripétie, c'est toujours la femme. Vous me rappelez votre question, parce que la première scène de cela, c'est les filles de Lot qui prennent l'initiative. Et qu'est-ce qu'elles cherchent, les filles de Lot? L'engendrement messianique. Ici, j'ouvre une petite parenthèse, mais on le reverra avec Ruth et Boaz, hein, qui est l'achèvement de réussite. C'est que que se passe-t-il à ce moment-là pour la famille de Lot? On est persuadé que c'est les seuls rescapés de l'humanité tout entière. Il n'y a plus personne. Sodome et Gomorre, il y a eu une conflagration atomique sur Terre. Si vous avez visité les grottes de Sodome et de Gomorre, on se rend compte qu'il s'est passé quelque chose. C'était quand même pas que du sel. Bien que la femme de Lot, en voyant le sel, elle a dit ça doit être du sel jeune. Enfin, jeune. Mais elle en a été fusée. Mais c'était pour détendre la chose. Il s'est passé quelque chose. Vous connaissez ce paysage de Sodome et Gomorre. Donc, certains disent, j'en sais rien, mais certains disent que c'est peut-être une catastrophe atomique. Bon, c'est possible. Et la famille de Lot est persuadée, il n'y avait que Lot et ses filles, elle est persuadée qu'il n'y a plus d'humanité sur Terre. Alors la tentative des filles de Lot, c'est une tentative messianique dans la caricature, caricaturée, de sauver l'humanité par l'engendrement messianique. Mais c'est dans l'impureté. Cette même scène va se reproduire. Et là, l'initiative vient des filles de Lot. Et là, l'initiative donc de la péripétie vient de Tamar, c'est indéniable. Comme l'initiative de la péripétie viendra de Ruth. on voit le progrès de transfiguration de sainteté. C'est la même scène, mais à des niveaux de sainteté radicalement. Et encore une fois, la motivation de l'objectif est la même. C'est d'assurer la délivrance messianique de l'humanité. Or, ce n'est pas pour rien que Ruth ramènera cette sainteté cachée, enfouie, occultée de Lot, puisque Ruth est descendante de Lot. Par laquelle ? Par moi. Et c'est clair, hein ? Vous voyez donc qu'il y a une cohérence dans le récit. Mais je reprends la scène de Judas et Tamar. Qui c'est Judas ? C'est lui qui décide d'enfanter cet enfant. Vous verrez, je vous citerai le verset. On parle d'une prostituée quand on cherche de savoir qui c'est. Le verset dit clairement : Loaïta Kedesha Bazi, il n'y a aucune prostituée là-bas. C'était une femme qui s'assoit sur un endroit qu'on appelle Petach Enaim. L'ouverture des yeux, l'ouverture des sources. On fait ce midrash tout à l'heure, vous l'avez dans le texte que je vous ai donné. Et elle est déguisée de manière telle que c'est Daka elle que Judas choisit. Encore une fois, vous comprenez l'intention de ma réponse. Si c'est une anecdote de péripétie, c'est pas la Bible qu'on lit. Okay, il s'agit de l'histoire de Judas, qui est veuve de sa femme, okay, et qui, sortant de son veuvage, cherche à rencontrer une femme. Et finalement, c'est pas n'importe laquelle, nous dit le récit, c'est précisément cette même Tamar qui était la chance de l'enlèvement messianique, mais ça ne marchait pas avec Aïr, ça ne marchait pas avec Onan. Judas avait peur que ça échoue avec Shla, le troisième. Est-ce que la cohérence est claire ? Ce que je veux dire, c'est que pour revenir à votre question, l'initiative de la péripétie, c'est évidemment bien du côté féminin. Mais l'initiative de l'événement, alors c'est de la même manière que Lot fait semblant de dormir, de la même manière que Judas fait semblant de ne pas savoir qui c'est, de la même manière que Boaz fait semblant de dormir. Et est-ce que c'est clair ? Donc, mais effectivement, l'initiative vient de... Et cet élément de réponse, je l'ai reçu d'un enseignement de Rachel Nick, c'est Ronald Libracha. Vous vous rappelez de Rachel Nick ? Tel qu'il avait mis ça en forme. Et... Bien. Alors donc, Vayomer Tzadik Avimeni, regardez bien le pshat de la fin du verset, qui alken la netatiha vishla beni. Car c'est pour cela que je ne vais pas donner à Shla mon fils. Alors quel est le sens de ce qui alken ? C'est à cause du fait que je ne lui ai pas donné, donc elle n'est plus tzadikette que moi. Ça, c'est le pshat habituel. Mais tzadik Avimeni, c'est par moi qu'elle est tzadikette, car c'est pour ça que je ne vais pas donner à Shla. Et c'est clair, quand je dis Shla, il faut dire Shela. Okay, il n'y avait qu'à ce moment-là que deux possibilités. Une, la plus aléatoire des aléatoires, c'est le troisième fils de Judas, Shela. Et si ça ne marche pas avec lui, c'est fini. Okay. Ou bien c'est Judas lui-même. Et là, le pshat est très clair maintenant. Je veux lire en hébreu. Vayaker Yehuda. Alors Judas reconnut les signes de l'engagement, du gage, et il dit Tzadeka Mimeni, c'est par moi qu'elle est Tzadeka. Je vous répète, c'est pas le pshat classique, c'est pas le pshat pshat, okay, c'est par rapport au sujet du Midrash que nous étudions. Ki alken l'onetati al-Islamini, car c'est en vue de cela que je ne l'ai pas donné à Shlam. C'est trop aléatoire avec lui, c'est moi qui dois le faire. Ça va jusque-là? Et en plus, d'ailleurs, vous verrez ce que les commentateurs disent sur la fin du verset, Velo Yassaf Odledahta, il y a deux lectures possibles sur le même mot, et il n'ajouta plus de la connaître, ou bien il n'arrêta plus de la connaître. Velo Yassaf. C'est clair ? Bon, alors, on finit sur ce verset. On va peut-être maintenant, si vous avez une question sur ce qu'on a vu, et 35 minutes de Afsaka, et on continuera donc la suite. C'était la deuxième analogie. Merci. Bien, alors écoutez, la troisième thèse, vous l'avez donc, nous sommes à la ligne 3. C'est Rabbi Shmuel Bar Nachman Amar, Kevodissimot, Maase Tamar, Maase Ishto, Shel Petipa. le lien d'analogie qui est mis en évidence dans ce troisième enseignement, c'était pour relier ce qui s'est passé entre Judas et Tamar et Joseph et la femme de Potiphar. C'est-à-dire, ce qu'on cherche, c'est la raison pour laquelle il y a eu cette parenthèse dans l'histoire de Judas. Là, je crois qu'il n'est pas nécessaire d'analyser plus. Et nous sommes déjà familiers à cela. C'est deux tentatives différentes, deux stratégies différentes de pouvoir trouver femme pour la suite des engendrements. Alors, je ne vais pas rentrer maintenant dans le détail des analyses. Simplement, je rappelle que tout le récit de la Torah, c'est pour nous indiquer que la tentative de Joseph, quelles que soient les raisons pour lesquelles il est nécessaire de la vivre, de la tenter, si j'ose dire, aboutit à un échec. C'est une impasse. Merci. Je crois qu'on peut le rattacher à l'ensemble général du récit historique qui est en préface à la Torah comme loi, et que finalement la tentative de Joseph aboutit à ce qui s'est passé en Égypte, et c'est une fois la sortie d'Égypte réalisée que la Torah est révélée à Israël. Mais s'il y a une question là-dessus, on peut approfondir un peu, sinon on peut avancer. Y a-t-il une question ? Okay.
En ce qui concerne Judas, le dernier fils de Judas qui est trop jeune au moment du veuvage de Benan, on a l'impression que Judas met de la mauvaise volonté à dire à sa belle-fille, quand il sera d'âge, je te le donnerai, et qu'il ne vient jamais, et que c'est un peu par désespoir que Tamar se met sur le chemin.
J'ai essayé de montrer qu'il y a dans ce récit, il y a toute une stratégie qui aboutit finalement à forcer une impossibilité, l'enfantement de cet enfant que l'on attend. La Torah nous décrit toutes les difficultés, toutes les impasses, et finalement elle décrit comment en fin de compte il y a une issue possible. Mais le verset que nous avons lu tout à l'heure montre que c'est très intentionnellement que Judas n'a pas voulu faire ce troisième mariage au niveau des enfants. Alors, je vous cherche tout de suite l'indication du Midrash qui donne un complément à votre question. Et avant cela, très rapidement, prenons le verset. La Torah nous donne une indication de localité. Alors, c'est le chapitre 38. Prenez le verset 11. Le verset que vous citez, c'est le verset 11 du chapitre 38. Vayomer Yehuda. Et Juda dit, le Tamar Kalato, à Tamar Sabru, Shvi Almana Betavich, réside comme veuve dans la maison de ton père. Ad Igdal Shla Beni, jusqu'à ce que grandisse Shla, mon fils. C'est le troisième. Vous rappelez, on va préciser ça tout de suite. Er n'a pas voulu avoir d'enfant, Onan non plus, alors ils sont morts. C'est de là que vient le terme de onanisme qu'on emploie en français. Il y a une sorte d'épuisement de la lignée au niveau des fils de Judas avec sa première femme. Alors j'en dirai que quelques mots maintenant. Dans la tentative de Judas, il s'agit de rencontrer une souche de fécondité éventuelle chez des tzadikim du pays de Canaan. Alors il y a une famille que la Torah nous indique, et il faut le lire dans le chapitre 38, la famille d'un personnage qui s'appelle Chouar. Et Judas épouse la fille de Chouar, qui est donc Bat-Chouar. Or, j'ai trouvé qu'en phénicien, Chouar signifie le palmier. Donc c'est très analogue à la notion de Tamar et de Tzadik. C'est-à-dire, il y a-t-il dans cette civilisation pour qu'Israël est destiné à remplacer, et il ne peut pas y avoir de civilisation sans des justes à l'échelle individuelle, pas suffisamment pour que la civilisation comme telle soit vraiment sauvée, mais il ne peut pas exister de société humaine où il n'y a pas à l'échelle individuelle des tzadikim. je prends par analogie, si vous voulez, avec ce que nous avons connu avec l'Allemagne nazie, ben nous savons que, bien que l'Allemagne était nazie, elle était ce qu'elle était, il y avait quand même à l'échelle individuelle des héros de la vertu. Donc, un choix possible en Allemagne même, alors que l'Allemagne était au niveau de Knaan, la dépravation totale. C'est clair ce que je veux dire. Aucune complaisance. Et donc, Yehuda a une première tentative de faire souche avec cette syndicine du pays de Knaan, et on trouve qu'il y a quelques-uns, dont Hiram, vous vous rappelez, et puis Hiram, on n'a pas utilisé le Midrashim concernant Hiram, parce qu'on va retrouver à Hiram, au moment de la construction du temple, avec David et Salomon, comme le Midrash l'indique. Il y a une souche d'identité qui est capable de construire le temple. Et ce n'est pas du tout d'Israël. C'est de cette tzadikim, des civilisations antérieures, qui ont fait souche, mais de manière, disons, récessive, pas suffisamment dominante, pour qu'il y ait fécondité à l'échelle de ce qui va se révéler avec Tamar. Et l'explication que j'aurais tendance à donner, c'est ceci. Lorsqu'il y a une différenciation trop avancée, elle devient inféconde. Plus un être est différencié, moins il est fécond. C'est-à-dire, ces tzadikim du pays de Knaan, comme par exemple Shua, sont des tzadikim, mais sans avenir de fécondité. Un peu comme Abraham se connaissait alors qu'il n'était encore que Abraham et pas déjà Abraham. Vous vous rappelez de ces textes où il est difficile à Abraham d'entendre la promesse de fécondité parce qu'il se connaît comme arrivé à une impasse de développement historique. Il a une fin d'histoire, Abraham, et c'est cependant à lui qu'est donnée la promesse de la fécondité pour l'avenir. Cet étonnement que nous avons en lisant le texte, Abraham ne réussit pas d'emblée à écouter ce qu'il entend, que Dieu lui promet la fécondité d'avenir. Et puis, il met en place différentes stratégies. Peut-être Eliezer de Damas, vous vous rappelez ? Non, ce n'est pas Eliezer de Damas. Alors peut-être Ishmaël. Non, ce n'est pas Ishmaël. Mais Isaac de Sarah, c'est très difficile à admettre que ce soit possible. Je crois qu'on peut le formuler de cette manière. Il y a des stades de l'évolution d'une société où une société qui portait le témoignage de la fécondité absolue finit par se connaître comme stérile et renoncer. Je crois que on peut retrouver ça au niveau de la société juive à des stades de démission d'identité dans des fins de période historique qui mènent à une assimilation et donc à une démission d'identité. Je crois que ça a peut-être été le cas, j'ai dû le citer en parlant de cela, de la société juive en France à la fin du 19e siècle. Se connaissant comme étant porteur d'un passé historique de fécondité, mais ne se connaissant plus comme fécond, et donc passant le relais à une autre société. C'est un peu à partir de la Révolution française, finalement, le judaïsme français a continué à rester fidèle aux espérances des prophètes hébreux, mais avec une sorte de conviction que ça passe par la société française et plus par la société juive. Je schématise beaucoup de choses là, mais je pense que ça vous est suffisamment clair. Et il a fallu les coups de boutoir de l'histoire pour que nous sommes maintenant en France avec une communauté juive qui se connaît féconde. Mais la communauté israélite française s'était connue comme stérile. Je me souviens d'une phrase qui clôt le livre sur l'histoire du peuple juif de Renan. C'est comme ça que s'appelle le livre de Renan, l'histoire du peuple juif. Lorsqu'il finit sur cette phrase en disant « Ce peuple qui a été une souche féconde pour l'humanité est devenu une branche stérile et s'est passé ailleurs. » Lui, il pense au christianisme, bien entendu. Mais par analogie, je cite cette formule. Je me souviens, avant la guerre mondiale, nous avons connu un peu cette atmosphère. Je voudrais quand même vous citer ce que j'ai en mémoire. C'est une phrase que l'on prête au rabbin Zadok Kahn, qui était en son temps un des grands rabbins de France les plus illustres. Mais c'était un temps d'assimilation israélite énorme. Alors on lui demandait, y a-t-il encore un espoir dans ce sens-là, un espoir d'avenir pour le peuple juif? Il avait répondu, enfin c'est ce qu'on lui prête, une très belle formule, il n'y a pas d'espoir, mais il faut faire comme si. Ce qui est la définition de l'espoir, d'ailleurs. Je veux dire, ceux qui ont connu l'état de la société juive en France, ou en Europe, même en Europe occidentale, disons, à la fin du 19e siècle, eh bien, ça n'a rien à voir avec ce bouillonnement de fécondité que nous avons de notre temps. C'est bien clair, je pense. Mais c'est un peu cela. Et alors, donc, je termine ça et je vous donne la parole. Donc, cette souche de chouard, c'est des tzadikim, mais avec un épuisement de capacité de fécondité. Alors, à travers Er, fils de Judas et de Bachouard, il y a un passe. Je ne veux pas traduire très littéralement les expressions qu'on parle de la Bible. Il ne veut pas avoir de descendance. Faire un enfant pour le donner à cette histoire, non, on n'en aura plus. Et puis alors, par le Lévira, Tamar passe au deuxième frère qui est Onan. Et Onan, bon, non plus. Ça ne veut pas dire qu'il se prive de jouissance, mais il ne veut pas avoir d'enfant. Alors là, Judas doit faire un diagnostic. Par mes enfants, par la fille de Chouar, il y a un passe. Maintenant, il faut que je le fasse moi-même. Voilà quelle est l'indication. Je finis le verset, vous avez la parole. Abidal Shlabeni, jusqu'à ce que Shlabeni, mon fils, grandisse, qui a marre, car il s'était dit, Ben Yamut, de peur qu'il ne meure, Gamou, lui aussi, Kehav, comme ses frères. C'est-à-dire, il y a cette crainte, il y a de quoi avoir cette crainte, parce qu'il y a déjà deux exemples, d'une incapacité de vouloir faire souche. Et donc, il serait puni de mort pour ne pas vouloir avoir un enfant. C'est clair, comme les deux frères précédents. Vatelir Tamar, Vatelir Betavia. Et alors, voilà, ce que je cherchais, c'est une minute. Peut-être vous m'aidez à le trouver. À propos de cela, le verset dit Vaya Birsiv. Voilà, c'est le verset 5. Verset 5 du chapitre 38. La naissance du troisième enfant va tous ses fraudes. Elle ajouta encore d'enfanter, va-t-elle aider l'enfant à bien un fils. Va-t-il être chez mon Shela. Et elle nomma son nom Shela. Vaya Birsiv, Velita Oto. Et il se trouvait à Kesiv lorsqu'elle l'enfanta. Il y a deux interprétations dans le langage. Soit Kesiv. C'est, vous avez un petit village dans le nord d'Israël qui s'appelle Arsiv, une petite république autonome, genre Monaco, je ne sais pas quoi. C'est folklorique, mais vous connaissez ça. C'est à peu près le même mot. Soit c'est un endroit géographique qui s'appelle Ksiv, on se demande qu'est-ce que ça peut nous faire que cela soit Arsiv. Hein? Soit le village dit, Ksiv ça veut dire avorton. Il était comme un avorton. C'est-à-dire en plus, il y a le diagnostic de Judas, c'est qu'il sait qu'il ne peut pas en compter, même s'il voulait. Et alors donc il y a un passe absolu. Alors Vaïkar Yehuda Isha Leher Bechoro Shema Tamar. Oui, les péripéties. Il y a une famille de tzadikim et ça existe, la fille de Shua, Judas l'épouse, lui la lignée messianique va passer par elle, par ses enfants, par nos enfants avec elle. Et puis on voit que c'est bouché. La seule chance qu'il reste, c'est je le ferai par moi-même. C'est ce que j'essaye très patiemment de mettre en évidence. Okay? Encore une fois, on peut comprendre cela, comme j'ai fait allusion tout à l'heure, qu'on se rend compte que ce n'est pas un récit anecdotique, que c'est le récit de la réalité de la tentative des engendrements messianiques. Et il faut passer par toutes ces péripéties. On passe par toutes ces péripéties. Alors on nous raconte comment ça se passe dans la lignée de Judas. Dans la lignée de Joseph, ça nous le verrons d'autre part, c'est d'emblée l'impossibilité. Parce qu'il y a cette volonté que le fils de Judas ne soit pas hébreu, mais égyptien. Alors il y a impossibilité. Je vous rappelle comment le Midrash l'indique, c'est important d'avoir en mémoire. Le Midrash dit, qui intéressera les psychologues d'ailleurs, le Midrash dit qu'au moment où ça allait arriver, que Joseph et la femme de Potiphar, ça arrive, comme disait Michel l'autre soir, avant que le rideau, ou après que le rideau ne tombe, eh bien, il voit la figure de son père, d'où inhibition, et il s'enfuit. Alors, le Midrash dit, il voit la figure de son père, il se rend compte que ses enfants ne ressembleront pas à son père. C'est-à-dire, c'est l'arrêt de la lignée hébraïque. Alors, il se déprend des bras de la femme de Potiphar, il s'enfuit, parce que le vêtement, ça nous étudierons peut-être demain ou après-demain. On a encore jusqu'à vendredi matin. Et tandis qu'ici, il y a une stratégie extrêmement difficile. comment arriver à rendre de nouveau féconde la souche qui a été féconde dans le temps préhistorique précédent. C'est-à-dire ces restes de tzadikim qu'il y a chez les Cananéens. Vous voyez pourquoi j'ai formulé cela ? La tentative de Judas, c'est de faire souche en retrouvant l'antérieur d'Israël. Alors que celle de Joseph, c'est à l'extérieur d'Israël. Et ces deux types d'histoire juive radicalement différentes. On comprend pourquoi elles sont en compétition, en lutte, en tension. Mais ce que j'ajoute là, et bien sûr, il y a suffisamment d'études derrière pour que je puisse le dire en une phrase lapidaire, c'est que tout le récit de la Bible, c'est pour nous raconter ces deux tentatives et nous enseigner que la tentative de Joseph, je répète, quelles que soient les raisons pour lesquelles il faut la tenter, cette tentative mène à l'échec. Et le signe, c'est la sortie d'Égypte. Alors la Torah peut être donnée. Est-ce que c'est clair? Et je dirais plus, en citant un verset des psaumes, le Mikra, le texte biblique, pense comme cela. Il y a un verset des psaumes que nous chantons dans le Hallel, que je vais vous répéter. Betzet Israël mi Mitzrayim, Bet Yaakov me Amorez, Haïta Yehuda le Kotcho. À la sortie d'Israël de l'Égypte, de la maison de Jacob, du peuple barbare, c'est Judas qui devient le véhicule de la sainteté. Jusque-là, c'est Joseph. Le temps de l'Égypte, c'est le temps de Joseph. À la sortie d'Égypte, c'est Judas qui prend le rôle. Alors je crois que c'est tellement massif que je ne peux pas m'empêcher de le rendre encore plus massif. Okay, c'est que la Torah se donne comme message, voici la tentative de Joseph et son échec, sortie d'Égypte, Sinaï. Vous voyez à quel point c'est important de comprendre ces messages du Midrash. Donc, alors maintenant vous avez la parole.
Je n'ai pas bien compris le thème que vous avez développé de la stérilité de certaines familles isolées, en dehors de...
Voilà. Je continue alors l'analyse. Je veux dire que lorsque on a affaire à une identité qui est devenue très différenciée, parce qu'elle est, j'emploie un vocabulaire révolutionniste, elle est en fin de filum, si je veux. L'évolution a joué, elle a réussi, mais elle s'est tellement différenciée que ça devient stérile. Plus on est différencié, moins on sert à beaucoup de choses à la fois. J'ai étudié cela avec, vous me souvenez d'étudiants, un très grand professeur d'anthropologie au musée de l'homme qui s'appelait Leroy Bourhan. On étudiait les outils. Alors, plus un outil est indifférencié, plus il sert à beaucoup de choses. Plus il est différencié, plus il est spécialisé, plus il est précieux, mais il ne sert qu'à une chose. Et l'écran d'après, l'étape d'après, il ne sert plus à rien. Alors c'est un peu cela. Je ne sais pas si cette analogie n'est pas trop hardie. Dans la capacité des engendrements, plus l'identité qu'on transmet est évoluée, finement différenciée, moins elle est féconde. C'est la fin des familles d'aristocrates. Les familles d'aristocrates, finalement, sont stériles, arrivent à devenir stériles. Alors, il y avait donc des aristocrates de la sainteté dans le pays de Canaan, le reste des tzadikim de l'Antiquité. On nous raconte l'histoire de la rencontre entre Judas et une de ces familles, mais elle est trop différenciée. Alors c'est Er, Onan, Shla. Judas dit, là, il y a une impasse. Donc je vais reprendre le problème. C'est là que le Midrash va dévoiler que Tamar, elle, est la fille de Shem, c'est-à-dire la source la plus indifférenciée de l'identité hébraïque. Si vous me permettez une parenthèse, peut-être scandaliser quelques-uns. Mais enfin, on le dit. Et c'est que nous assistons aujourd'hui à un phénomène qu'on appelle le retour aux sources. Alors l'échec du retour aux sources, c'est lorsqu'on retourne à une source intermédiaire trop différenciée. Est-ce que c'est clair? Bon, dans ce mouvement de tshuva, de retour aux sources, si on prend comme modèle un modèle qui, en son temps, a été l'épanouissement de l'évolution, mais est devenu caduc, alors, au fond, on est occupé à une réanimation de cadavre. Mais un cadavre même réanimé, ça reste un cadavre réanimé. Okay? Lève-toi et marche, mais c'est un cadavre réanimé. Je ne sais pas si c'est clair ce que je veux dire. Bon, je ne cite personne, puisque je cite tout le monde. Et alors que pour que le ressourcement se fasse, il faut remonter à la source la plus indifférenciée. Alors pour les identités juives, les lubris, la source la plus indifférenciée, c'est la source hébraïque. Mais si on se ressource à une juiverie particulière de l'évolution juive, eh bien c'est la réanimation de cadavre. Je crois que j'ai scandalisé beaucoup de gens, mais je pense avoir été clair. Est-ce que c'est clair? Alors, pendant longtemps, ça peut faire illusion, mais c'est une grâce de la patience de la providence. Attendez, dans l'ordre, je pense que c'était où?
Là, moi, j'avais toujours appris que lorsque, justement, Tamar lui reconnaît, quand Tamar lui reconnaît, le fait que Yehuda reconnaisse, il y a eu une teshuva de sa part. Alors, pourquoi y a-t-il toute teshuva si, en fait, tout était
C'est le pshat. C'est le pshat classique, normal. C'est le pshat.
C'est pour ça que...
Bon. Alors, j'en profite de vous poser d'autres questions. Il me semble y avoir fait illusion, donc, trop rapidement. C'est-à-dire, dans tous les enseignements de la Torah, le pshat nous enseigne d'abord l'harmonie de moralité, de vertu. Alors, de ce récit, dans son pshat, on apprend que même un roi comme Judas, un grand comme Judas, a l'humilité de reconnaître lorsqu'il s'est trompé. Et on apprend de lui, de ce pshat-là. Judas a le courage de dire « Elle a plus raison que moi. » C'est son mérite de vertu. C'est le pshat. Je veux dire... un exemple de ce principe, le caractère spécifique de l'enseignement de la tradition de la Torah, c'est de mettre d'abord en évidence l'enseignement de moralité. Alors, j'ai rencontré ça une fois en étudiant la Gemara de Vitine, il me semble, page 7, moi je connais, vérifiez pas, c'est probablement pas ça. Et on pose la question, pourquoi le petit doigt de la main est plus petit que les autres? C'est là que j'ai compris que, je vais donner la réponse du Talmud, mais la réponse d'un grec serait tout de suite une réponse de l'esthétique. Une main qui n'aurait pas un petit doigt, c'est pas beau. La réponse de la Gemara, elle est extraordinaire. Okay. C'est parce que si jamais tu entends une calomnie, tu peux te boucher l'oreille avec. Et tout de suite, on va à l'argument de moralité. Est-ce que c'est clair? Vous voyez la différence de... Bon, alors, je crois que c'est beaucoup plus fondamental que ça. Dans tout pshat d'un texte traditionnel, les rabbins vont d'abord mettre en évidence le drash de moralité, le moussard. Alors ça, c'est un pshat qui nous a caché le verset. C'est un pshat vrai, mais qui cache le verset. Mais qu'est-ce qui se passe du point de vue de l'historiosophie? Qu'est-ce qui se passe du point de vue de la signification de notre histoire? Est-ce qu'on a besoin d'une histoire pareille pour apprendre une vertu pareille? Est-ce que c'est clair? La vertu est vraie, mais c'est pas de là qu'on apprend. On en profite pour dire que là, même Judas. Est-ce que j'ai été clair?
On a l'impression que les deux explications se contredisent.
Non, il ne faut pas.
C'est ça qui...
Très bien, d'accord. D'abord, je comprends mieux en tout cas votre souci. Non, ça ne se contredit pas du tout. Il faut avoir un sacré courage pour dire ces deux choses-là à la fois. En disant, c'est grâce à mon extra de Sadeket, il laisse entendre à tous les moussarisants, vous voyez, je suis vertueux, je reconnais qu'elle a raison. Est-ce que ma réponse est claire?
La
oui.
femme de Judas est une fille de Pichoua,
oui.
Et non pas Tamar.
Non, mais
Tamar est la fille de
qui? De Shem. Ça, on va y arriver avec un mirage que vous avez entre les mains encore pour demain. Vous garderez les feuilles parce que le temps avance.
Mais alors, pourquoi est-ce que vous nous avez dit que Choua, ça ne s'est pas lié sur l'explication?
Voilà, je profite de votre question. Quand j'ai étudié ce texte, j'ai cherché dans un dictionnaire, qu'est-ce que ça pouvait dire, le mot de Choua. Et j'ai trouvé que c'est un mot phénicien qui signifie palmier. Donc vous voyez quel est le souci de Judas, chercher où il y a un tzaddik, enfin une femme tzaddik. Okay? Alors, premier récit de la Torah, ça existe chez les Cananéens. On avait le choix. Et puis, ça lance votre question, c'est infécond. Et alors, le dénouement, la guéoula du problème, c'est Tamar. Alors je crois que c'est comme ça qu'on peut le formuler. Bien sûr, je ne peux pas vous donner de source, je l'explique ça oralement, et en français en plus. C'est que la souche Choua était trop différenciée, alors elle est stérile. Elle aboutit à une démission d'enfantement. C'est Er, c'est Onan, et c'est le risque de Shla. Okay? Alors que Tamar, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'elle est la fille de Shem? Elle a l'identité la plus indifférenciée, alors elle est féconde. D'où l'implication que j'en ai retirée pour notre histoire contemporaine, parce que c'est un problème qui nous empoigne. On a simultanément ces deux impressions contradictoires, que ces formes anciennes du judaïsme du passé que l'on prend pour source sont très belles, elles sont très authentiques, et que cependant elles sont caduques, et les deux choses sont vraies. Est-ce que c'est clair ce que je veux dire? Alors je crois que c'est un manque de courage dans le ressourcement. On ne va pas suffisamment profond. Est-ce que c'est clair ce que je veux dire? Je parle en contexte de société française. Le signe, c'est que c'est exotique en France. S'il s'agissait de la manière dont l'école de Rachi était vue à sa manière en France, bon, ça pourrait être une source de ressourcement du judaïsme français, à la française. Mais les modèles que l'on prend, et encore une fois, qui sont authentiques, et à l'échelle privée, pouvant être à l'origine d'une histoire juive future, en tant qu'expérience privée, mais prise comme modèle du clan Israël, c'est évidemment caduque. C'est un peu le vocabulaire de la philosophie de Bergson qui m'a aidé.